Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui dans Investigation, on vous emmène dans le monde de la nuit. En octobre 2021 est né le mouvement Balance ton bar. Sur les réseaux sociaux, des hommes et des femmes brisent le silence et dénoncent les violences sexuelles qu'ils ont subies. La plupart des faits se sont déroulés dans des bars. Les victimes ont souvent été droguées avant d'être violées. Nous avons enquêté sur ces drogues du viol, quelles sont les substances utilisées, qui sont les auteurs présumés de ces actes, comment la police et la justice gèrent-elles ces dossiers délicats. Gérald Vandenberg, vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez réalisé cette enquête au début de l'année 2022. Vous avez été surpris par l'ampleur du phénomène.
Oui, j'étais en fait surpris par le nombre de témoignages qu'on a assez rapidement pu recueillir. Alors, pas nécessairement des gens victimes d'agressions et où justement ça allait jusqu'au viol, mais de gens qui avaient un moment ou un autre un témoignage de perte de conscience, de perte de prise avec la réalité. Ça, on en a vraiment eu énormément. On a vraiment dû faire une sélection par rapport au total des témoignages qu'on avait. Et j'avoue que j'ai été complètement surpris de voir que ça touchait tout le monde, garçons, filles, de tous les âges aussi, parce qu'on avait des témoignages de personnes de 30 ans, de 20 ans, mais aussi de 50 ans. Et donc ça, franchement, je m'y attendais pas du tout.
Viol au fond du verre, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Gérald Vandenberg, Stéphanie De Smet et Brice Bourin.
Octobre 2021, plusieurs centaines de jeunes femmes défilent dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Elles sont furieuses, en colère.
Je trouve que c'est pas normal que des étudiantes puissent pas sortir, faire la fête, se détendre sans risquer de se faire agresser, sans risquer de se faire violer, sans risquer de se faire droguer.
Ce sont plusieurs témoignages de jeunes femmes qui les poussent dans la rue. Elles affirment avoir été droguées, puis agressées sexuellement dans plusieurs bars de ce quartier branché.
Toujours avoir quelqu'un à côté de toi, ne jamais aller seul.
C'est fatigant.
Nous retrouvons au cœur de cette manif Maïté Meus. C'est un personnage clé de cette mobilisation. Elle y joue un rôle particulier. Depuis plusieurs mois, elle compile sur une page Instagram ses fameux témoignages d'agression dans les bars d'Ixelles et d'autres quartiers de Bruxelles.
Publié une septantaine, mais reçu vraiment beaucoup. Et puis énormément ne veulent pas avoir leur témoignage publié, mais veulent simplement se confier. Donc voilà. Certaines entrent très fort dans les détails. On sent la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Et c'est parfois très lourd, c'est souvent très lourd même. Mais je pense que ça démontre l'ampleur du phénomène. C'était facile de fermer les yeux aussi, parce qu'il y a énormément de choses à changer, tant au niveau de la justice que du dépôt de plainte, que de la sécurité au sein des établissements même. Donc c'est un énorme problème à attaquer et il est beaucoup plus facile de fermer les yeux sur des choses pareilles.
Quelle est l'ampleur exacte de ces agressions sexuelles? Qui sont les agresseurs? Et surtout, quelle méthode utilise-t-il? Ces questions sont au cœur de notre investigation. Pour préparer notre émission, nous parcourons les témoignages publiés sur Balance ton bar. Nous tentons ensuite de joindre les victimes. L'approche se fait lentement. Quelques messages sur Instagram, un échange de numéro de GSM, puis une première conversation au téléphone. Il faut y aller doucement. Ces jeunes femmes ont souvent été détruites, anéanties par leur viol. Marie est la première à accepter de nous rencontrer. Mais elle impose une condition, un anonymat complet. Elle ne veut pas être reconnue en rue et être à tout moment associée au mot viol. Pour y parvenir, nous retranscrirons son témoignage au mot à mot et nous le ferons lire par une comédienne. Il y a un peu plus d'un an, Marie fréquentait les cafés du cimetière d'Ixelles avec l'insouciance d'une jeune femme de 23 ans. Jusqu'un soir, au El Café, un café du rond-point d'Ixelles, où tout va déraper.
Quand on est arrivé, du coup, on n'a pas bu tant que ça. On n'a presque pas bu du tout. Enfin, c'était très peu en tout cas. Mais au bout d'un verre en particulier, j'ai senti que ça allait plus. J'avais l'impression d'être un peu au ralenti. J'ai voulu aller aux toilettes pour essayer d'un peu reprendre mes esprits et essayer de... Mettre de l'eau sur mon visage ou quelque chose. Et il m'a suivie. J'étais dans l'encadrement de la porte. Je tenais même pas debout. J'étais toute molle. Sans force. Je pense qu'il a compris que j'étais pas dans un état normal et ça a été très rapide. Je le poussais.
Après, il m'a retourné face au mur, il m'a enlevé mon pantalon et il a réussi à rendre ça extrêmement violent et douloureux. Et après ça, en fait, tout est flou. Mais ça, je m'en rappelle très bien parce que justement, ça faisait mal. Il m'a vraiment, vraiment arraché une partie de moi et c'était très violent.
Son agresseur sera entendu par la police. Sa défense est simple. Marie était d'accord. Il n'a rien forcé du tout. C'est la version qu'il donnera au policier qui l'interroge.
Selon mon agresseur, c'était quelque chose de consenti. Oui, que c'était consenti. Je sais pas comment ça pourrait être consenti, ce genre d'acte, mais bon, c'était pas consenti.
Comme toute victime, Marie devra ensuite subir un autre supplice. L'attente. Cette longue attente qu'impose le travail de la justice. Elle estimait avoir un dossier en béton. Elle connaît son agresseur. Les preuves de l'agression sexuelle sont là. Elle est optimiste. Elle va tomber de haut.
Peu de temps après, on m'a appelé pour me dire que c'était classé sans suite. Donc, c'était une grosse déception. C'est un peu violent aussi parce que le message que ça relève, c'est... On sait ce qu'il a fait, on l'a interrogé, on est au courant, mais c'est pas grave. Y a pas assez de preuves et donc on s'en occupe pas et on le laisse tranquille. Et toi, tu te débrouilles.
Ce témoignage poignant nous pousse à nous poser plusieurs questions. Quelles substances utilisent les agresseurs pour droguer leurs victimes? Où se les procurent-ils? Sont-elles difficiles à trouver? Pour répondre à ces questions, nous nous rendons au CHU de Liège. Le docteur Corinne Charlier est toxicologue. Elle analyse souvent pour la justice les prélèvements effectués sur les victimes de viol. Elle recherche les substances qu'un agresseur aurait pu utiliser pour les neutraliser. Le docteur Charlier va mettre trois lettres en avant. GHB, pour l'acide gamma-hydroxybutyrique. Ajoutez une boisson, ce liquide transparent peut vous faire perdre la mémoire. Il est extrêmement difficile à retrouver dans l'organisme des victimes, ce qui en fait une arme idéale.
Là, c'est vraiment le GHB qui est problématique parce qu'il se dégrade très rapidement. Donc, si on veut le mettre en évidence, il nous faut soit un prélèvement de sang, mais qui est fait dans les 3-4 heures qui suivent l'agression, un prélèvement d'urine, mais il ne faut vraiment pas que ce prélèvement d'urine soit plus vieux que 12 heures, par exemple. Et donc, ça veut dire que souvent, le délai va faire qu'on ne va plus pouvoir mettre en évidence le GHB.
Mais le docteur Charlier va aussi nous mettre en garde. Il ne faut pas tout focaliser sur le GHB. Il est difficile à trouver et on a tendance à surestimer son utilisation. Elle va nous expliquer, à notre grande surprise, que les agresseurs disposent d'un véritable arsenal.
Ce qu'on appelle la soumission chimique, c'est-à-dire le fait de droguer quelqu'un pour abuser de lui ou pour le voler, va faire appel à toute une série de substances chimiques. Et parmi finalement les plus répandues, ce sont plutôt les benzodiazépines, ce sont des médicaments qui vont être utilisés. On retrouve aussi des antihistaminiques, des antidépresseurs, du cannabis, parfois des amphétamines, mais aussi le GHB.
Ça signifie que si on allait par exemple voir son médecin en disant « je dors mal pour le moment, j'ai perdu un membre de ma famille », on pourrait se voir prescrire un médicament qui pourrait servir à cet usage.
Oui, absolument. Une benzodiazépine, c'est un somnifère. Une des applications des benzodiazépines, c'est justement d'être utilisée comme somnifère, comme hypnotique. Donc on peut relativement facilement s'en procurer.
Autrement dit, les principales drogues du viol sont tout simplement au fond des tiroirs de la pharmacie du coin et sont légales. Il suffit de détourner ces médicaments de leur usage normal. Qui sont ces agresseurs qui utilisent ces substances pour neutraliser leurs victimes? À qui s'en prennent-ils? Et surtout, comment s'y prennent-ils? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Nous retournons sur la page Balance ton bar. On s'intéresse aux témoignages tournant autour d'une boîte de nuit aujourd'hui fermée, le Wood. C'était une boîte techno située dans le bois de la Cambre. Elle sera fermée en 2016 pour tapage nocturne. Les jeunes qui y sortaient avaient entre 18 et 22 ans. Plusieurs victimes racontent y avoir été droguées, puis abusées. Nous rencontrons plusieurs d'entre elles. En prenant notre temps, sans les brusquer, nous parvenons à les convaincre de nous parler. Elles réclament l'anonymat. Elles craignent un procès en diffamation qui aurait pour seul but de les faire taire. Elles considèrent leur agresseur comme un homme puissant. Le premier témoin à s'exprimer est Sita, un garçon de 26 ans. Il y a 8 ans, ce jeune garçon fréquentait assidûment le Wood. Son histoire commence par un verre offert par le patron de la boîte.
Quand Karl vous offre un verre, en fait, vous dites pas non parce que voilà, il y a la notoriété, il y a le côté un petit peu c'est Karl, c'est lui qui tient les rênes. Et je me souviens boire ce verre, peut-être un deuxième, et puis je me souviens de rien. J'ai des flashs. Je me souviens n'avoir rien bu avant, ni n'avoir rien pris.
Sita va se retrouver dans une pièce à l'étage de la boîte de nuit, un endroit appelé la terrasse. Il ne se réveillera que le lendemain matin. La musique a cessé, Sita est toujours à moitié droguée. Le patron du Wood l'attend.
Je me souviens qu'il m'ait dit « Eh ben alors mon petit chéri, t'as un petit peu trop bu ce soir ?» Et moi qui savais à peine parler à ce moment-là, parce que je ne sais pas sous quel effet de drogue j'étais, mais je m'armenais, je ne comprenais pas. Il faisait les questions et les réponses en fait. Il me disait « Bon ben tu sais quoi, je vais te ramener à Rhode parce que tu habites à Rhode. »
Sita ne rentrera pas chez lui. Son agresseur, le patron du Wood, le conduit dans sa maison. Il l'invite à se recoucher jusqu'à ce qu'il aille mieux.
Comme il est derrière moi, je rentre dans cette chambre. Il rentre derrière moi, il ferme la porte. Et c'est là que, bah, qu'il abaisse mon pantalon. Il me pousse contre le lit et il fait ce qu'il a à faire. Ça dure pas très longtemps. Moi, par sécurité, je ne me débat pas. Je me rends compte que je suis en train de me foutre dans quelque chose qui va me rattraper toute ma vie. Jusqu'au moment où il me demande de changer de rôle. Et là, c'était plus fort que moi parce que c'est pas ma position. C'est déjà pas ce que je voulais. Il y avait pas de consentement. Et là, je pense qu'il a vu sur ma tête que bah, il y avait un rejet. Il y avait une peur, que je tremblais. Et ça s'est très très vite passé parce qu'il a, tout remballé. Il m'a suivi et il m'a foutu à la porte.
Pour Sita, ce moment est une rupture. Il n'a jamais été consentant. Ce viol fait éclater sa vie. Rien ne sera plus jamais comme avant. Il dérive, sort beaucoup, se drogue et contracte le sida.
Donc j'ai arrêté les études. Je me rends compte vraiment avec le temps, 8 ans plus tard, que bah, peut-être que ma vie n'aurait pas été pareille. J'aurais peut-être eu la force de faire d'autres choses et pas de me laisser aller et de me laisser survivre en fait, parce que depuis tout ça, c'est vraiment de la survie, c'est de la survie par rapport à ce viol, c'est de la survie par rapport au VIH, c'est de la survie par rapport à mon corps, et voilà. Et aujourd'hui, ben 8 ans plus tard, je vois que cette personne est toujours là et qu'elle œuvre toujours dans le milieu de la nuit. J'ai 26 ans, j'arrive plus à... J'ai besoin qu'il y ait justice par rapport à ça, pour moi et pour toutes celles et tous ceux qui ont vécu l'enfer.
La personne que Sita présente comme son agresseur, c'est Karl de Montcharlin, une figure bien connue du monde de la nuit et de multiples événements à Bruxelles. Le Mirano, le Fuse, la Roller Parade, la fête des voisins, c'est lui. Nous le contacterons par téléphone. Dans un premier temps, il acceptera une interview avant de se rétracter et de nous renvoyer vers son avocat, Maître Jean-Pierre Boyle. L'avocat contestera tout de suite toute utilisation de drogue dans les verres offerts par son client.
Vous expliquez que les personnes parlent d'un modus operandi. Il n'y a pas de modus operandi. Monsieur de Montcharlin n'accueille jamais ses visiteurs, ses clients, avec des verres. Il ne remet jamais des boissons à ses visiteurs. C'est son personnel qui s'occupe de ça. Lui ne le fait pas. Ce que vous m'expliquez ne correspond pas du tout au profil de mon client. Mon client est actif dans la vie nocturne bruxelloise depuis une trentaine d'années. Il a créé 5 établissements qui sont des établissements de premier rang où il n'a jamais eu de problème. Mon client a un casier judiciaire vierge et n'a jamais eu à répondre de quelque atteinte que ce soit de ce type. Je vous dis simplement, très simplement, qu'il a été entendu dans le cadre des plaintes dont vous parlez et la plainte a été classée sans suite.
Le parquet de Bruxelles confirmera bel et bien le classement sans suite de plusieurs plaintes. Mais un élément nous frappe dans tous les témoignages qui mettent en cause Karl de Montcharlin sur la page Instagram Balance ton bar. Le jeune âge des victimes. Elles ont toutes 16, 17 ou 18 ans au moment de leur agression. L'avocat de Karl de Montcharlin balaye l'argument.
Est-ce que M. de Montcharline confirme qu'il a eu par le passé des relations sexuelles avec des gens âgés de 17 à 18 ans,
jamais.
Garçons et filles? Jamais.
Jamais, ce n'est ni le profil de M. Montcharline, ni son expérience, ni la manière dont il est perçu dans la cité. Sur 30 ans de carrière, non.
Donc il n'a jamais eu de relation sexuelle avec un garçon ou une fille de 17 ou 18 ans fréquentant son établissement?
Jamais avec des mineurs, jamais.
Le problème, c'est que d'autres témoignages affirment exactement l'inverse. Nous rencontrons Adèle, 59 ans. En 2015, un coup de téléphone en pleine nuit va plonger brutalement cette mère dans l'univers du Wood et de son propriétaire. Ce sont deux amies de sa fille qui appellent au secours. Elles ont 16 et 17 ans.
Le hasard fait que ma fille avait laissé brancher son GSM sur son haut-parleur. Le téléphone sonne à 3h30 du matin et j'entends très fort dans la maison une voix de jeune fille qui dit à ma fille « Viens vite, notre amie a été violée ». Finalement, on saute dans la voiture et on part rejoindre la jeune femme qui a appelé.
La fille d'Adèle rentre dans le Wood. Elle en fera sortir ses deux amis. Elle raconte ce qu'elles ont vécu avec Karl de Montcharline.
Ce qui se passe, c'est que la fille qui a téléphoné, avant de téléphoner, elle se sent pas bien. Elle va aux toilettes et elle vomit. Elle revient dans la fameuse pièce privée et elle voit le patron de la boîte couché sur son ami avec les mains sous son pantalon. Et à ce moment-là, elle a un réflexe très intelligent. Je crois qu'elle retourne dans la toilette et elle appuie sur tous les boutons des numéros de téléphone enregistrés de son téléphone et elle appelle au secours.
Après avoir entendu ce récit, Adèle voit que les jeunes filles ont du mal à tenir sur leurs jambes. Elle les emmène à l'hôpital.
La gynécologue accepte de les voir. Moi, je ne suis pas là non plus. Et puis elles ressortent et elles disent « Oui, on a fait une prise de sang. » voilà. Et tu ne dis rien à nos parents. C'est tout. Et je n'ai des nouvelles finalement que 3 semaines plus tard, quand la maman d'une des filles me téléphone pour me remercier. Et me dit qu'elles ont porté plainte, les deux mamans avec les deux filles. La maman me dit qu'au commissariat, on leur a dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient porté plainte contre la même personne. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. En effet, elles ont appris qu'elles avaient été droguées, les deux. Donc j'imagine que ça fait partie du contenu de la plainte.
Comment réagit la justice face à ce phénomène? Combien de violeurs ayant drogué leurs victimes ont été condamnés? Quelle peine risquent-ils? Les réponses vont nous surprendre. Nous avons rendez-vous avec une avocate, Caroline Poiré. Elle défend fréquemment des victimes d'agressions sexuelles. Sans vraiment le chercher, cela représente la majorité des affaires qu'elle traite. Et les victimes de viols qu'elle accueille évoquent de plus en plus souvent l'utilisation de drogues pour les neutraliser.
Est-ce que vous pensez que les scénarios de ce type-là sont sous-estimés par le monde de la justice et compagnie ?
Mais oui, ils sont sous-estimés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne parvient pas à les prouver. Et donc, dans la mesure où on ne parvient pas à les prouver, ils sont sous-estimés. Alors, je pense qu'ils sont acceptés. Je veux dire, au niveau de la magistrature, on ne se dit pas que ce phénomène n'existe pas. Mais c'est vrai qu'en termes de dossiers traités par les autorités judiciaires, ils sont très faibles.
Est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre procès débouchant sur un jugement pour viol qui fait référence à l'utilisation de ce type de substance?
Non, aucun.
De plus en plus de cas, mais jamais de condamnation. Le paradoxe est total. Pour l'avocate, la justice n'utilise pas toutes les armes dont elle dispose pour coincer les agresseurs. Pour nous le prouver, elle nous propose de rencontrer Sophie. Son agression remonte à 10 ans. Tout commence par une banale sortie en boîte avec une amie. Des garçons, des amis d'amis les accompagnent. Sophie boit 2 ou 3 verres, sans excès. Dans les minutes qui suivent, c'est le blackout. Dès ce moment, elle n'a plus aucun souvenir. Ce sont des témoins qui lui expliqueront ce qu'elle a fait sur la piste de danse.
Ce n'est pas dans mes souvenirs, mais c'est dans le rapport de la police. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui dit que je fais pipi debout dans le You, habillée. Désolée, ça j'ai jamais fait quoi.
Quelques heures plus tard, Sophie se retrouve dans une maison du côté d'Enghien. C'est là que le viol aura lieu.
Cette nuit, là, je monte dormir ou me fais monter dormir. Il y a un garçon qui m'accompagne et un autre garçon qui nous rejoint. Et là a lieu le viol. Par deux garçons. Il me semble que de ce que j'ai pu collecter comme information, que c'est donc un acte sexuel à trois personnes. Clairement, moi, j'ai aucun souvenir.
Sophie porte plainte. Elle subit une batterie d'examen à l'hôpital. Détail important, elle donnera des échantillons de sang et d'urine. Ses agresseurs sont entendus par la police. Leur défense est facile. Ils affirment qu'elle était tout simplement consentante. Comme à chaque fois, c'est la parole de l'agresseur contre celle de la victime. La plainte est donc classée sans suite. Un traumatisme pour Sophie. Il y a un an, elle contacte l'avocate Caroline Poiré. Elle veut comprendre pourquoi l'affaire n'a pas fini au tribunal. L'avocate va se procurer le dossier. Elle y fera une découverte effarante. Les prélèvements d'urine n'ont pas été analysés. On n'y a pas cherché de drogue. La justice a négligé un élément crucial qui aurait pu déstabiliser ses agresseurs.
Cette analyse d'urine a été, on a fait ce prélèvement, mais aurait permis peut-être de corroborer ce que vous dénoncez dans le cadre de votre audition, c'est de dire qu'il y a une perte de conscience complète, et cette perte de conscience complète aurait pu être corroborée par le résultat de ces analyses toxicologiques. On aurait pu déterminer éventuellement s'il y avait eu administration de substances chimiques, bien évidemment, à votre insu.
Caroline Poiré avance un autre argument pour expliquer pourquoi, jusqu'il y a peu, les enquêteurs avaient peu d'intérêt à s'acharner à prouver l'utilisation d'une drogue du viol. Ça ne permettait pas de condamner plus lourdement le violeur.
Le viol, ce qu'on appelle le viol par soumission chimique, n'existe pas en tant que tel dans le code pénal.
Donc si je vous comprends bien, droguer quelqu'un, c'est pas grave.
Mais ça, en tout cas, ce n'est pas un élément aggravant.
On ne fera pas plus de prison pour ça.
On ne fera pas plus de prison pour ça.
Donc à quoi bon de chercher ?
Donc à quoi bon de chercher ? Voilà. Vous avez répondu à votre question.
Heureusement, depuis le 1er juin 2022, cet incroyable paradoxe a disparu. Un nouveau code pénal sexuel est entré en vigueur. L'utilisation de drogue du viol y est davantage punie. C'est devenu une circonstance aggravante. Reste que changer la loi, c'est bien, mais pas suffisant. Il faut aussi du personnel pour l'appliquer. Les juges réclament depuis longtemps plus de moyens au monde politique. Sans cela, la recherche des agresseurs ne s'améliorera pas. Un exemple, à Bruxelles, il n'y a que 3 substituts du procureur du roi pour traiter en moyenne 1100 dossiers ouverts pour viol et attentat à la pudeur chaque année. Près d'un cas par jour et par magistrat. Des moyens bien faibles qui laissent trop souvent les victimes désemparées, comme Sophie.
Nous voilà de retour en studio avec nos invités. Caroline Poiré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée dans les affaires de mœurs. À vos côtés, Maïté Méhus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de la page Instagram Balance ton bar. Maïté Méhus, vous recueillez donc depuis plusieurs mois des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été agressés sexuellement dans des bars. Est-ce que vous recevez encore aujourd'hui des témoignages ?
Oui, j'en reçois encore beaucoup. Donc il y a des témoignages qui sont publiés. D'autres personnes me confient leurs précis, mais ne désirent pas être publiés, désirent simplement être aiguillés vers un professionnel de la santé mentale ou d'ailleurs un avocat, ce que je les aide, je les aide dans leur démarche. Mais voilà, donc oui, j'ai encore beaucoup de témoignages qui affluent, et notamment par rapport aux piqûres à la seringue.
Notre enquête, elle a été diffusée en télévision au mois de mars 2022. Est-ce que après la diffusion, vous avez senti une arrivée plus massive de témoignages encore ou pas forcément ?
Mais je pense que depuis le mois d'octobre, il y a eu une arrivée de toute façon massive de témoignages. Ça a changé les mentalités du grand public. Il y a énormément de choses qui se sont dénouées à partir de ce mois-là. C'est vrai que dès que les médias reprennent le sujet, on en parle évidemment encore plus et la parole se libère encore plus. Donc Investigation a aidé à libérer encore une fois la parole. Mais de toute façon, le phénomène de la soumission chimique, il reste assez constant.
Caroline Poiré, donc je le disais, vous êtes avocate, vous représentez plusieurs victimes de viol. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus d'agressions sexuelles, de viols qu'avant ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait plus d'agressions sexuelles. Je pense que depuis le mouvement MeToo et depuis le mouvement Balance ton bar, il y a un mouvement de libération de parole. C'est-à-dire que les victimes parlent de plus en plus. Mais je ne pense pas qu'il y ait plus d'agressions sexuelles.
Et le fait de droguer sa future victime, est-ce que c'est quelque chose de fréquent qu'on retrouve dans ces affaires de mœurs ?
Alors fréquent, je ne vais pas dire que c'est l'essentiel en tout cas des dossiers que je traite, mais ce sont en tout cas des cas que je peux rencontrer lorsque je suis consultée par une victime. Je pense que c'est un phénomène qui existait déjà depuis bien longtemps, mais qui n'était pas connu en tout cas de l'opinion publique et qui maintenant, par le biais notamment de votre reportage Investigation, a été mis en lumière. Et donc nous avons plus de plaintes par rapport à ce type, effectivement, à cette particularité de viol.
Est-ce que ce phénomène de drogue, dans un monde de la nuit, où ben voilà, on sort pour boire un verre, est-ce qu'il est facilement identifiable par les victimes ?
Alors justement, il n'est pas facilement identifiable parce qu'elles mettent généralement leur perte de conscience sur justement une prise d'alcool. Et ce n'est que justement par des reportages comme Investigation que beaucoup de jeunes femmes se sont rendues compte qu'en réalité, ce n'était peut-être pas dû à une prise d'alcool, mais peut-être justement à s'être vu ingérer une substance chimique à leur insu.
Gérald, vous êtes journaliste à Investigation, vous avez réalisé cette enquête, vous avez révélé que plusieurs victimes affirment avoir été droguées et violées par un même homme, une figure bien connue du monde de la nuit à Bruxelles, Karl de Montcharline. Comment est-ce que vous avez découvert cette affaire ?
Simplement parce que plusieurs témoignages se répétaient par rapport à l'endroit, se répétaient par rapport aux méthodes utilisées. Et puis finalement, ben, on a compris qu'on avait affaire à la même personne. Donc c'est simplement l'accumulation de plusieurs témoignages qui a fait qu'on s'est décidé à parler de cette personne en particulier, puisque là, on avait fait des vérifications de circonstances, c'est-à-dire que les témoignages parlaient d'un même façon de faire, d'un même endroit, mais décrivait aussi l'endroit avec des détails qu'il est impossible de connaître si on n'y est pas allé. Et donc on a fait des vérifications entre guillemets matérielles pour juger de la crédibilité de ces témoignages. Et à partir du moment où on a estimé qu'on en avait suffisamment, qu'ils venaient de personnes crédibles et qu'ils arrivaient matériellement à prouver, en tout cas à donner un maximum d'indices quant à leur existence réelle, eh bien là on a décidé de donner le nom de cette personne.
On a entendu plusieurs témoignages de victimes. Il y en a encore davantage dont vous avez connaissance, mais qui n'ont pas souhaité s'exprimer dans des interviews.
Oui, il y en a qui n'ont pas souhaité s'exprimer, en tout cas pas devant la caméra, mais j'ai pu avoir des conversations avec ces victimes au téléphone et les histoires se répètent, donc ça ne sert à rien d'expliquer 4 ou 5 fois la même chose. Donc à un moment ou un autre, on s'est contenté de définir un scénario global, mais de ne pas répéter la même histoire, parce que c'est assez difficile à entendre en fait. Et donc ça n'apportait plus rien à l'enquête que l'on voulait mener.
Maïté Meus, depuis la révélation de ces témoignages-là en particulier, est-ce que sur la page Balance ton bar, il y a eu d'autres éléments qui ont été portés à votre connaissance ?
Oui, il y a eu d'autres témoignages qui concernent donc le même établissement, le Wood, et la même personne, donc la personne mise en cause dans le reportage Investigation.
Qui vous ont contacté ?
Oui, tout à fait.
Donc, du coup, Gérald, est-ce que vous savez si de nouvelles plaintes ont été déposées ?
Jusqu'à présent, non. Je ne sais pas si une plainte a officiellement été déposée. Je sais que plusieurs personnes envisageaient de le faire, mais ce sont des personnes qui ont parfois, à travers du reportage, découvert qu'elles avaient subi un viol. Et donc, entre le moment où, entre guillemets, elles prennent conscience de ça et le moment où elles trouvent la force d'aller déposer une plainte, il y a parfois un laps de temps important ou parfois ça n'arrive pas. Donc là, pour le moment, en tout cas, moi, je n'ai pas d'informations concernant une nouvelle plainte.
Caroline Poiret, vous représentez deux jeunes femmes qui ont porté plainte contre Karl de Montcharline. Elles ont été agressées au Wood, d'une boîte de nuit donc à Bruxelles, gérée à l'époque par Karl de Montcharline. Elles ont aussi affirmé avoir été droguées. C'était en 2014. Aujourd'hui, où en est cette enquête ?
Alors pour être tout à fait précise, donc j'ai été consultée par ces deux jeunes femmes après le reportage d'Investigation, parce qu'elles prennent en fait conscience de ce qu'elles n'ont jamais eu accès à ce dossier qui avait été classé sans suite en 2014. Et donc par le biais d'un avocat, elles ont la possibilité d'avoir la copie de ce dossier. Donc j'ai pu effectivement, en faisant une demande au parquet, obtenir la copie de ce dossier répressif qui a fait l'objet d'un classement sans suite en 2014, en précisant qu'un classement sans suite n'est qu'une décision tout à fait provisoire qui a été prise et ici motivée par une absence de charges suffisantes. Nous avons analysé ce dossier avec mes deux clientes et nous avons décidé en tout cas ne pas poursuivre la procédure dans la mesure où nous n'avons pas d'éléments nouveaux par rapport aux faits de 2014.
Est-ce que vos clientes ont été averties de ce classement sans suite ?
Alors, elles n'ont pas été averties de ce classement sans suite, c'est-à-dire que la décision de classement sans suite ne leur a jamais été notifiée personnellement. Maintenant, elles se doutaient bien évidemment que ce dossier n'avait pas fait l'objet de suite de la part du parquet. Elles étaient en tout cas dans l'ignorance qu'elles avaient la possibilité de se procurer la copie de ce dossier et de pouvoir en fait avoir un droit de regard sur les devoirs d'enquête qui avaient été diligentés dans le cadre de cette enquête-là.
Quand on sait la difficulté que ça représente de porter plainte, quand on est victime d'un viol, les démarches à entreprendre, et qu'après, finalement, on n'est pas forcément tenu au courant des suites du dossier judiciaire, est-ce que ce n'est pas quelque chose de difficile aussi à vivre ?
Je pense que c'est très difficile à vivre et je pense qu'au niveau du parquet, maintenant, il y a une réelle prise de conscience par rapport à cette problématique. Et j'espère qu'à l'avenir, effectivement, ces classements sans suite seront notifiés. Et en espérant peut-être aussi, dans un futur très proche, que ces classements sans suite soient motivés, non plus de manière stéréotypée, mais motivés de manière circonstanciée. Parce que je pense que pour une victime, c'est important en fait d'être informée et de comprendre ce système judiciaire et les raisons de ce classement sans suite.
Dans le dossier de vos clients, des analyses de sang avaient été effectuées juste après les faits et des traces de drogue avaient été relevées à l'époque. Ça n'a pas pesé davantage dans ce dossier ?
Oui, mais je pense qu'il faut se remettre à l'époque des faits. On est en 2014. On a effectivement, dans le cadre de ce dossier, des analyses sanguines qui corroborent le fait qu'il y a eu effectivement prise de drogue. On parle de MDMA et d'amphétamine, en tout cas pour une des deux victimes. Des devoirs d'enquête ont été diligentés, c'est-à-dire que toute une série de témoins ont été interrogés dans le cadre de ce dossier, mais qui n'ont pas été témoins directs des faits, mais en tout cas des circonstances, je dirais, antérieures et postérieures, en tout cas aux faits qui ont été dénoncés par mes deux clientes. Et M. Karl de Montcharline a été entendu dans le cadre de ce dossier, ne conteste pas la matérialité des faits, mais en tout cas avançait le fait que ces deux jeunes filles étaient tout à fait consentantes. Donc on était vraiment sur un problème de consentement et le parquet a estimé qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour renvoyer ce dossier devant le tribunal correctionnel.
Dans ce dossier, Karl de Montcharline a été entendu par la police. Il reconnaît avoir eu une relation avec ces jeunes filles qui avaient 17 ans à l'époque.
Mais tout à fait. Il reconnaît en tout cas la matérialité des faits mais conteste que ces deux jeunes filles n'étaient pas consentantes et conteste surtout avoir été à l'origine éventuelle de cette prise de substances chimiques.
Aujourd'hui, elles vont comment, ces deux jeunes filles ?
Elles sont un petit peu en désillusion de la manière dont ce dossier a été mené. Par contre, dans la compréhension du fait qu'on était à une époque où peut-être les mentalités n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Vous pensez que si ces faits se produisaient maintenant, ils seraient gérés autrement ?
J'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que je pense qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport à ce phénomène de soumission chimique. La preuve en est, c'est qu'on a une réforme du code pénal sexuel qui fait maintenant de la soumission chimique une circonstance aggravante du viol. Donc je pense très sincèrement que ce dossier aurait été traité, non pas au stade de l'enquête, au niveau de l'enquête, je pense que l'enquête a été menée tout à fait correctement, mais au niveau des prises de position du parquet quant à un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel.
Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs plaintes contre un même auteur présumé, est-ce que ça peut jouer justement un rôle et amener des enquêtes à être rouvertes ?
Mais bien évidemment, mais cela relève de l'opportunité du parquet qui va devoir apprécier s'ils ont l'intention de faire joindre ces dossiers et à un moment renvoyer M. Karl de Montcharline devant le tribunal correctionnel. Mais ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle du parquet d'apprécier effectivement s'ils ont des éléments suffisants pour pouvoir aller devant le tribunal et espérer effectivement une condamnation de Karl de Montcharline. Je pense que l'opportunité des poursuites, c'est cela, c'est se poser la question de savoir si on a suffisamment d'éléments pour aller devant un tribunal correctionnel pour obtenir la condamnation de la personne qui est suspectée et qui est visée par plusieurs plaintes.
Gérald, est-ce qu'il y a eu des suites à cette enquête ? Est-ce que Karl de Montcharline a réagi après la diffusion de notre émission ?
Oui, donc il a réagi en précisant que toutes les plaintes qui avaient été portées contre lui à l'époque avaient été classées sans suite et que lui considérait donc que tout ça était maintenant derrière lui et qu'il pouvait reprendre une vie normale. Voilà, donc ça c'est la manière dont il a réagi à la suite de notre reportage. reportage, après avoir été écarté à un moment de la boîte de nuit qu'il gère pour le moment, mais là aussi, il a retrouvé ses activités professionnelles comme avant.
Un phénomène dont on parle également beaucoup, ce sont ces jeunes hommes ou femmes qui ont été drogués pendant une soirée après avoir été piqués avec une seringue, une piqûre qui leur a fait perdre la mémoire, perdre leurs moyens. Maïté Méus, vous avez reçu des témoignages en ce sens. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, de récent ?
Oui, c'est quelque chose d'extrêmement récent. On a vu le début de ce phénomène-là environ au mois d'octobre, novembre, avec l'apparition de premières piqûres en Grande-Bretagne. Ça a d'ailleurs créé un grand mouvement là-bas de jeunes femmes qui se révoltaient de l'insécurité qu'elles vivaient. Et puis, on a reçu pas mal de témoignages sur les comptes de Balançon-Bar en France, notamment dans des villes du Sud, voilà, et notamment dans des villes à forte population étudiante. Et là, depuis, disons, un mois, on reçoit pas mal de témoignages concernant la Belgique et particulièrement Bruxelles par rapport à ce nouveau phénomène-là. Et c'est un phénomène qui inquiète parce qu'on ne sait pas véritablement détecter ce qu'il y a dans la seringue. Et puis, il y a un risque de transmission énorme du VIH ou de l'hépatite, par exemple. Donc, une personne qui a été victime de piqûre à la seringue doit tout de suite se rendre dans une structure adaptée ou dans un CPES même, ou dans un hôpital le plus proche.
Donc, un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Alors, on sait que des jeunes femmes ou des jeunes hommes ont été drogués à l'aide de ces piqûres, mais est-ce que pour autant, il y a eu des agressions sexuelles qui ont été menées à la suite de cette drogue ?
Non, pas spécialement. Il y a énormément de cas où il n'y a pas de suite. Après la piqûre, la personne est soit très très étourdie, soit s'évanouit, vomit. Enfin, il y a des réactions qui sont vraiment différentes. Enfin, ça dépend des cas. Mais il n'y a pas toujours d'agression sexuelle et donc on se demande vraiment pourquoi ces piqûres, quel est le but. Certaines personnes sont volées, certaines personnes sont agressées, mais dans la grande majorité des cas, non, il n'y a pas de suite.
Gérald, c'est quelque chose en effet qui a été fort connu en Grande-Bretagne. On n'en sait en effet pas plus à l'heure actuelle sur ce phénomène et sur ce qu'il représente ou qui s'adonne à ce genre de fait.
Non, parce qu'en général, les prédateurs qui utilisent ce type de drogue du viol, ils ont un modus operandi assez précis. Ils achètent cette drogue, ils se débrouillent pour la mettre dans un verre, pour la faire boire par leur victime. Et puis, ils veulent évidemment que leur victime soit isolée et ne se souvienne pas de ce qui est arrivé. Donc, ils ont vraiment un scénario qu'ils déroulent jusqu'à l'agression sexuelle. Ici, en fait, on n'a pas systématiquement, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de nombreuses agressions sexuelles qui auraient suivi une injection de ce type. Et j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues de la BBC au moment où j'ai préparé le reportage sur les drogues du viol pour savoir si on abordait cette question des injections. Et eux aussi se posaient la même question parce qu'en effet, on a retrouvé chez des jeunes femmes là-bas des traces de piqûres, des drogues dans leur sang, mais il n'y a pas eu d'agression dans la suite. Alors, que cherchent exactement ces prédateurs, le contrôle sans doute de la personne, mais pourquoi ? Pas en tout cas à chaque fois pour une agression sexuelle. Donc c'est assez flou sur les mobiles exacts des gens qui agissent de cette sorte-là, mais ça reste particulièrement dangereux.
Est-ce qu'on est aujourd'hui, Maïté Méus, à la hauteur en Belgique en termes de prise en charge de ces victimes de viol ?
On déploie de plus en plus de CPVS, donc ça c'est une initiative que je pense que tout le monde saluera.
Donc ce sont des centres de prise en charge des violences sexuelles dans lesquels on retrouve finalement tous les services dont a besoin une victime de viol.
Tout à fait, il y a une prise en charge bien plus globale, donc moi je recommande évidemment à toutes les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles ou des viols de se rendre immédiatement au CPVS le plus proche afin de pouvoir recevoir l'aide nécessaire, même si elles ne désirent pas porter plainte. Donc le déploiement de ces centres-là, c'est quelque chose de crucial. Dans la prise en charge de victimes de violences sexuelles. Et je pense que c'est un modèle qui est un modèle d'ailleurs qui est envié en Europe et pour lequel on vient nous rendre visite. Voilà.
Donc, on peut rappeler que dans ces centres, on trouve à la fois des médecins, mais également des policiers, tous formés à la prise en charge de ces violences sexuelles.
Tout à fait, même une équipe thérapeutique, des psys, des psychiatres. Voilà, donc c'est une belle initiative. Maintenant, il faut faire énormément d'autres choses. Il y a aussi tout le volet prévention, le volet formation de la police, enfin, éducation, consentement. Enfin,
est-ce que le monde la nuit a réagi à ce phénomène et à cette dénonciation dans le cadre de Balance ton bar ?
Il a réagi, mais je pense un peu trop tard. Et les mesures qui sont prises ne sont pas assez fortes par rapport.
Qu'est-ce qui a été décidé ?
Donc il y a un plan de la ville de Bruxelles qui s'appelle 77 mesures pour lutter contre le harcèlement sexiste dans l'espace public, qui est un plan de Philippe Claus.
Le bourgmestre de la ville de Bruxelles.
Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, exactement. Qui prévoit de mettre des mesures contraignantes sur les établissements de nuit. Bon, voilà, il faut encore suivre l'avancée de ce plan et voir ce qu'il en découle. Mais de toute façon, la solution passe par des mesures contraignantes. On ne peut pas laisser chaque établissement décider du sort de son propre établissement. Et voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une safe zone? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce que le personnel est formé? Donc le personnel doit être formé de toute façon. Il y a des systèmes simples tels que Ask for Angela qui peuvent être mis en place. Donc c'est un système qui prévoit de mettre des affichettes dans les toilettes des femmes où on leur explique, vous pouvez demander Angela au bar. Et Angela, c'est un nom de code pour expliquer au personnel que voilà, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide et activer la procédure qui est prévue à cet effet-là. Il faut également former le personnel de sécurité, c'est très très important. Et voilà, il faut savoir que le personnel de sécurité, pour obtenir sa carte, c'est régi par la loi Tobac. Et là-dedans, il n'y a aucune formation prévue ou aucune partie de la formation prévue par rapport aux violences faites aux femmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Voilà.
Caroline Poiré, vous êtes d'accord, on fait davantage de choses pour les victimes de viol aujourd'hui en Belgique et ce nouveau code pénal qui vient d'entrer en vigueur y contribue ?
Oui, je pense qu'il y a une avancée qui est importante et qui doit être saluée, notamment par la multiplication de ces centres de prise en charge des violences sexuelles, en vous disant peut-être que j'espère maintenant qu'il y ait également une possibilité d'avoir un premier conseil juridique au sein de ces centres de prise en charge des violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être vu par un médecin, un psychologue, d'être entendu par un inspecteur de police formé. Mais ce serait intéressant finalement qu'on ait des avocats de première ligne au sein de ces CPVS qui peuvent donner un premier conseil juridique parce que après la plainte, il y a le dossier pénal, il y a l'enquête. Et c'est très souvent à ce moment-là, en fait, que les victimes sont délaissées et qu'elles n'ont pas connaissance, en tout cas, des droits dont elles pourraient disposer, en tout cas, durant l'enquête, des droits de solliciter des accès au dossier pour connaître l'état d'avancement du dossier et la possibilité, éventuellement, de se constituer partie civile. Donc, j'espère vraiment qu'il y ait, en tout cas, une avancée à ce niveau-là. C'est-à-dire que les victimes aient la possibilité de consulter un avocat très très rapidement, parce que je pense que l'avocat, elle rempart en fait de la victime face à un système judiciaire qui est compliqué, face à une procédure judiciaire qui est longue. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire qu'il est temps que le barreau soit associé à la défense des victimes de violences sexuelles.
Mais même si les procédures judiciaires sont longues, compliquées, si souvent les moyens manquent pour mener correctement des enquêtes complètes, le message à faire passer, c'est quand même à toutes les victimes, si elles en ont la force et l'envie, de déposer plainte malgré tout.
Oui, je pense qu'un dépôt de plainte permet en tout cas, et je le constate au contact de mes clientes, en fait, de déposer un récit et d'avertir les autorités judiciaires en fait d'une infraction pénale. Et c'est ensuite à nous, avocats, à les informer de la procédure judiciaire et des droits dont elles disposent durant cette enquête.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités. Si vous avez été victime d'un viol, sachez que 6 centres de prévention des violences sexuelles existent en Belgique, notamment à Bruxelles, Liège et Charleroi. Ils sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez également contacter SOS Viol au 0800 98 100.